Ben Seigneur, on te loue, on te remercie pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour tes bénédictions. Et nous voulons vraiment bénir ton royaume. Vraiment, reçois cette offrande, Seigneur, reçois-la selon ton cœur. Merci vraiment pour ce que tu vas en faire, pour ton royaume, pour te glorifier, afin que d'autres encore puissent te rencontrer, Seigneur, être touché par ta lumière. Amen. En ce moment, les prédications qui sont données dans l'église de réveil, en tout cas, concernent beaucoup la prière. Et donc, c'est sur ce thème-là que de nouveau je vais prêcher ce matin. En ce moment, je suis assez travaillé au niveau de l'état de ma vie de prière. Puis je me questionne aussi sur l'état de la vie de prière de l'Église, alors que ce soit de l'Église locale, mais aussi de l'Église en général, en tout cas en Suisse, en Europe. Quand je vois qu'il y a différents endroits du globe où voilà, il y a des réveils qui se passent, nous prions pour le réveil. Et on sait que les réveils, ben, avec quoi ils sont enclenchés, avec quoi ils débutent, c'est par la prière. Et voilà, tout ça, ça me travaille quand je vois qu'on est dans un monde où ça va vraiment à toute vitesse. J'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, que tu n'as pas un moment pour respirer. Tu n'as pas un moment, parfois, hein, tu n'as pas un moment pour te poser. Et tout ça, je me demande jusqu'où ça va aller. Et tout ça, ça me travaille par rapport à la prière. Alors quand je préparais cette prédication dans la prière, justement, je vous dis ça, pour moi, ce n'est pas évident, parce que moi, je ne suis pas forcément un méditatif. Hein. Je suis plutôt, quelque part, un actif. Donc, quand on est un actif, ouais, un peu. Ce n'est pas facile d'être un méditatif. Mais voilà, quand je demandais au Seigneur, je priais par rapport à ce message, il y a un verset qui m'est venu, et c'est de ce verset dont je voudrais partir. Est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît, Claudia? Merci. Qui se trouve en 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce verset, c'est dans le contexte où il y a eu l'inauguration du temple sous Salomon, par Salomon. Et là, le Seigneur, l'Éternel, vient pour la deuxième fois apparaître à Salomon pendant la nuit. Salomon a une vision et voilà ce que Dieu vient lui dire en réponse à toutes les prières que Salomon et le peuple ont faites pour consacrer ce temple. Et là, qu'est-ce que Dieu vient dire? Il vient s'engager. Il vient s'engager à ce que oui, il répondra à la prière du peuple dans ce lieu du temple qui lui est consacré, même si un temple ne peut pas contenir Dieu. Il répondra depuis ce lieu à partir du moment où le peuple reste fidèle au Seigneur, reste fidèle à ses commandements. Et que si à un moment il est infidèle, il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il revienne. Voilà dans quel contexte Dieu donne cette parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que nous vivons ici en Europe, ici en Suisse? Je ne sais pas, je crois qu'il faut laisser le Seigneur nous travailler par rapport à des choses. On pourrait vite être dans l'accusation ou dans des messages culpabilisants. Et puis, enfin, les messages culpabilisants, c'est bon, quoi. Hein? Il y en a eu des siècles, donc on va faire en sorte. Et puis voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit la manière dont le Seigneur il veut nous parler. Donc il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais se laisser questionner, se laisser travailler sur ce que Dieu il veut faire dans notre vie de prière. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé dans ce verset, c'est la place centrale de la prière. Il y a trois attitudes, trois actions, trois activités qui sont décrites. S'humilier, prier et chercher la face de Dieu. Et la prière est au centre. Alors, bien sûr, on peut le voir comme une espèce de chemin, une espèce de trajet pour être dans une prière juste, pour être dans une prière qui soit entendue de Dieu. Bah, bien sûr, il faut s'humilier, c'est-à-dire il faut être humble, il faut reconnaître nos manquements, nos travers, nos limites, nos faiblesses, nos erreurs aussi, nos faux pas, nos péchés. Il faut reconnaître tout ça, qu'on ne peut pas faire sans Dieu, qu'on a besoin de lui, qu'on lui fait confiance aussi. C'est pour ça qu'on s'adresse à lui. C'est dans cet état de cœur que vraiment on peut entrer dans une prière juste. Et en étant dans cette prière, c'est là justement qu'on se met à chercher la face de Dieu. C'est-à-dire, la face de Dieu finalement, c'est qui ? Qui est-ce qui s'est fait connaître comme étant la face de Dieu ? Voilà, c'est Jésus qui nous montre le visage de Dieu. Et finalement, chercher la face de Dieu, c'est ressembler à Jésus. C'est s'identifier à lui. Et ça, c'est ce qu'on vit dans la prière. Ça, c'est ce que produit la prière. Quand on est dans la prière, on ressemble de plus en plus à notre Sauveur et à notre Seigneur. On ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Mais voilà, ça peut être vu comme un trajet, mais en même temps, si on attend d'être humble parfaitement pour prier, on n'a pas fini, quoi. Et c'est justement en ressemblant au Seigneur qu'on devient de plus en plus humble, puisque l'humilité, c'est son caractère. Ça veut dire qu'il faut attendre pour prier. En se mettant vraiment dans la prière, en se posant dans la prière, on cherche justement qu'on est conduit en humilité à chercher la face du Seigneur. Et c'est justement parce que voilà, on est imparfait, qu'on a besoin, de prier. Et par rapport à cet aspect central de la prière, central, ça veut dire que c'est, moi je crois que la prière, ça doit être vraiment le centre de nos vies. On le retrouve, il y a d'autres moments dans la Bible où on retrouve cet aspect central de la prière, notamment dans Matthieu 6. Sur lequel je suis venu ces derniers messages, Matthieu 6, où Jésus il commence en disant « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Gardez-vous de pratiquer des actes de justice. » Et là, il annonce trois actes de justice. Lorsque vous faites l'aumône, donc lorsque vous êtes charitable, lorsque vous donnez aux pauvres, lorsque vous donnez à ceux qui ont besoin, lorsque vous priez, et lorsque vous... Et là, de nouveau, on voit que la prière, elle est centrale. Et elle est centrale, et là, moi, il y a quelque chose qui m'est apparu. Vous savez comment on est fait, comment Jésus nous a... Comment le Seigneur, comment Dieu nous a créés, comment il nous a construits. On est constitués comment ? Esprit, âme et corps. Et si vous regardez bien, donner l'aumône, finalement, alors il faut que tout ça, ce sont des activités spirituelles, bien sûr, mais on ne mobilise pas la même dimension de notre être. Quand on vient faire l'aumône, donner l'aumône, finalement, c'est l'âme qui entre en jeu. Parce qu'il y a une histoire de sentiments, d'émotions, on se met à la place de l'autre, voilà, on essaie de comprendre, etc. Et il y a notre cœur, comme ça, et toutes nos émotions qui sont engagées là-dedans. Lorsque l'on jeûne, qu'est-ce qui est engagé, qu'est-ce qui est mobilisé comme partie de notre être ? Notre corps, bien sûr. Alors, bien sûr, il faut que ce soit inspiré. Mais lorsque l'on prie, là, ce qui est engagé, c'est l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, l'activité de la prière, c'est vraiment ce qui est central dans notre vie. Parce que sans l'esprit, on n'a pas la vie. Le corps et l'âme, ils n'ont pas la vie en soi. La vie, elle coule de l'esprit. Donc justement, si on ne prie pas, si on ne prend pas suffisamment le temps de la prière, si on ne se pose pas dans la prière, l'esprit, il est tout rikiki. En tout cas, il n'est pas mis à l'œuvre. Alors lui, il n'a qu'une envie, notre esprit et le Saint-Esprit au travers de nous. C'est justement d'agir au travers de nous. Quand je disais, voilà, qu'on voit comment le monde, il va, comment ça court de plus en plus. Ne pas prier, finalement, ne pas laisser notre esprit s'exprimer, ce serait l'équivalent de, dans une journée de boulot, de jamais prendre de pause. Même de pause repas. Imaginez que vous avez une journée de travail, vous ne prenez pas de pause repas. Ben, c'est cela. L'esprit, la prière, c'est la respiration de notre être. C'est comme ça qu'on souffle. À un moment, on se pose. Et c'est pas facile de se poser parfois. D'arrêter d'agir, d'arrêter d'être dans l'activité. Hein. On a envie de bouger parce que voilà, on a envie de maîtriser les choses par nous-mêmes. Donc voilà, on voit comment cet aspect central de la prière, il est lié à notre identité de créature. Nous sommes esprit, âme et corps. Et là, la prière, elle est vraiment centrale. Un autre exemple qui dit combien la prière est centrale, bah c'est parce qu'aussi, finalement, la prière, elle est centrale dans notre vie, bah parce qu'on est chrétien. Ça fait partie de notre identité chrétienne. Jésus dit dans Apocalypse 1:6 que nous avons été faits un royaume de prêtres, de sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et le rôle du sacrificateur, quelle était la mission première du sacrificateur? C'était de prier. Ça se voyait notamment au travers du feu qui était allumé dans le tabernacle, puis dans le temple. Feu qui était alimenté jour et nuit. Hein, c'était devant, au niveau de l'autel des parfums, il y avait ce feu, devant le voile, derrière lequel il y avait l'arche de l'Alliance. Et sur ce feu, on mettait de l'encens, des aromates, de l'huile, et il y a des parfums qui se dégageaient. Et Apocalypse 5.8 dit que ces prières, ces parfums, ce sont les prières des saints. Donc ce feu allumé avec les parfums qui se dégageaient, ça représentait la prière. Et c'était continuel, c'était une prière continuelle. Un autre aspect aussi du fait que la prière elle soit centrale chez les sacrificateurs, c'est, ou en tout cas que la prière soit en premier, bah déjà le sacrificateur, il priait pour lui. Il faisait des sacrifices pour demander pardon à Dieu pour ses manquements à lui, pour ses fautes à lui. Et nous, c'est ce que nous sommes amenés à faire. D'abord, voilà, à s'incliner devant Dieu. D'abord, à regarder l'état de notre cœur devant Dieu. Avant de prier pour les autres, voilà, il faut qu'on regarde aussi la poutre qui est dans notre œil. Et ensuite, le prêtre, il était amené à faire des sacrifices pour le peuple. Le sacrificateur, il était à faire des sacrifices pour le peuple. Donc là, c'est l'intercession. Et il se trouve que en hébreu, le mot qui est utilisé pour parler de la prière, pour dire prier, c'est un mot, alors ça, en hébreu, c'est palal. Répétez après moi, palal, palal, voilà. Dans le ciel, on parlera hébreu, hein, si jamais, donc faut vous y mettre maintenant. Hein. Et ce mot, ce verbe palal, il signifie quoi? Dans le fond, il signifie prier, intercéder. Intercéder, ça signifie en fait tout simplement intervenir auprès d'eux. Venir entre. C'est ce que fait Jésus. Il vient entre nous et le Père. Et nous, nous sommes appelés en tant que sacrificateurs, en tant que prêtres, à venir entre Dieu et les hommes et ce monde. Et apporter ce monde pour que justement la justice de Dieu s'accomplisse. Parce que c'est ce que nous faisons quand nous prions, et puis aussi quand nous faisons l'aumône et quand nous jeûnons. Nous rendons justice avec Dieu, nous établissons la justice. Nous collaborons avec Dieu pour rétablir sa justice sur terre, qui sera définitivement établie quand Jésus y reviendra. Donc voilà, tout ça pour dire l'importance de la prière et de notre intercession. Nous sommes appelés à être des intercesseurs. Ça fait partie de notre identité. Nous avons vocation à être des intercesseurs, à intercéder pour nos familles, pour les gens que nous aimons, à intercéder pour les personnes que nous côtoyons au travail, à intercéder pour les personnes que nous rencontrons à l'école, bref, dans les différents lieux où nous avons à intercéder pour cette ville, quand nous voyons aussi toutes les choses qui peuvent se passer et qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu. Et puis remercier bien sûr le Seigneur qui est à sa gloire pour ce qui se passe dans cette ville. Mais voilà, c'est notre place. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est notre vocation. C'est quelque chose de très fort. Et ces derniers temps, il y a quelque chose sur lequel j'ai été interpellé. Vous connaissez la prière 24-7? Ouais. Qui ne connaît pas? Okay. Donc la prière 24-7, c'est un mouvement en fait de prière qui évolue depuis des années et des années maintenant, qui consiste à tenir une prière continuelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une prière, une louange, une intercession continuelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et généralement, ça se fait à partir d'une maison de prière, un lieu où voilà, les chrétiens se réunissent, et c'est continuel, c'est tout le temps. Et dernièrement, on m'a vendu un livre qui en parle, et vraiment, c'est une... Moi, je connaissais un petit peu comme ça, mais pas à ce point, et c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. Et cette prière 24-7, elle repose aussi sur une prophétie qui est la prophétie du prophète Amos, qui parle à un moment, cette prophétie, elle est rappelée par les apôtres dans le livre des Actes, au moment de la naissance de l'Église. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. La restauration du tabernacle de David, c'est quoi? Déjà, ça c'est au moment où les premiers païens vont se convertir, les premiers non-juifs vont se convertir. 24-7, cette restauration du tabernacle de David, elle est liée à l'évangélisation des nations, à l'évangélisation mondiale. C'était quoi le tabernacle de David? C'était le moment où finalement David, il a installé un service de louange, d'intercession, de prière qui était continuel dans le tabernacle. Et puis ça s'est poursuivi après dans le temple sous Salomon. Et si vous regardez bien, si vous lisez bien, le règne de David et Salomon, c'est le moment où Israël était au must de sa forme, au top de sa forme. C'était le moment où il avait la victoire sur tous ses ennemis. C'était le moment où le royaume était vraiment en paix. C'était le moment où Israël était dans la victoire. Et ça dit justement la place de l'intercession, de la prière, de la louange par rapport à la victoire, par rapport à la victoire dans nos vies, mais par rapport à la victoire du Seigneur dans ce monde qui s'établit, par rapport à l'accomplissement du plan de Dieu qui veut justement toucher toutes les nations. Cette prière 24-7, ça a repris à quel moment? Alors déjà en 1948, il y a eu la restauration du royaume d'Israël. Enfin, il y a eu la restauration d'Israël qui a retrouvé sa terre. Donc ça, il y a quelque chose qui a compté parce que là, c'est ce que la Bible appelle le temps des nations qui se terminait. Le temps des nations se terminait. Et là, du coup, l'évangélisation des nations peut reprendre à partir de cela. Et en 1900, cette prière 24-7, elle a commencé en 1973 en Corée du Sud. C'est là le premier endroit où il y a eu des lieux de prière, de louange, d'intercession continuelle. Et puis ça s'est développé de plus en plus. En 1987, c'était en Israël, à Jérusalem, je crois. Et puis, où il y a eu une maison de prière pour les nations. Et puis après, ça a continué. Il y a eu différents endroits du globe où il y a eu des mouvements de prière 24-7. Et je crois que Alors, je ne dis pas que l'église locale, on va se mettre à la prière 24-7. Enfin, je ne sais pas. Hein, parce que... Mais je crois que le Seigneur veut faire des choses dans ce sens-là. Je crois vraiment qu'il y a un mouvement de l'esprit qui est en train de souffler en ce moment, de plus en plus. Ce que nous vivons quand, par exemple, nos amis apostoliques, ils font leur 7 heures de louange une fois par an. Quand nous faisons nos cultes de louanges et d'adoration, quand il y a aussi des soirées de louanges intercantonales là, qui se font avec la Rochette, voilà, vous voyez, il y a différentes choses comme ça. Ce ne sont que des prémices. Et ce sont des choses qui sont appelées à prendre de l'ampleur. Comment est-ce que nous pouvons vivre une prière, une intercession, une louange continuelle? Alors, à l'échelle d'une église locale, je vois pas, je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, voilà, nous sommes plusieurs églises dans cette ville, dans ce canton. Je ne sais pas comment le Seigneur il veut faire les choses, parce que très vite, nous, on pourrait se dire, ouais, allez, donc une prière 24/7, il faut organiser les choses, on va faire un tableau, tu vois, on va noter, on va coordonner tout ça. Seigneur, on va t'aider, tu vois, avec nos petits bras. Tu vois. Mais voilà, en fait. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de se culpabiliser, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre au niveau de la prière. Jésus, il disait, mais vous demandez, mais vous demandez mal. Et puis les disciples venaient le voir, ils disaient, mais enseigne-nous à prier. On n'a jamais fini d'apprendre par rapport à la prière. Voilà, c'est ça, palal. Je vous l'ai mis en hébreu, palal. Vous avez dit que palal, ça voulait dire prier, intervenir, intercéder, venir entre. Bah, tu peux tout mettre. Et vous voyez. Toutes les lettres hébraïques, elles ont une signification. Et cette lettre, qui est deux fois dans Palal, ça veut dire étudier, apprendre. Ça dit ce qu'est la prière. Qu'effectivement, la prière, c'est, voilà, on prend le temps. Que la prière, c'est un apprentissage. Et donc voilà, il ne s'agit pas de se dire, ah, bah, on n'en fait pas assez. Mais on n'en fera jamais assez, de toute façon. On n'en fera jamais assez. Il s'agit d'entrer dans ce que le Seigneur, dans ce que l'Esprit est en train de souffler, dans quelle mesure nous voulons entrer là-dedans. Et ce qui est formidable dans l'hébreu, c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura hébreu dans le ciel, donc commencez à vous y mettre. C'est fou de voir les révélations qu'il y a dans les mots, qu'il y a dans les lettres. Il y a un mot qui est très proche justement de Palal, l'Ancien Testament, c'est Pala. Repeat after me. Voilà. Voilà. Ah, j'ai perdu. Tu peux remettre tout. Et il le diffère avec Palal seulement d'une lettre. Et cette lettre dont il diffère, c'est le Aleph. C'est la première lettre en hébreu. Et le Aleph, il signifie puissance. Et ce mot, Palal, il signifie être hors du commun, être des choses qui sont merveilleuses, des prodiges, des miracles, notamment quand... Dieu a rendu Sarah, qui avait 90 ans, enceinte. C'est là qu'on trouve ce. Donc vous voyez que si très vite on peut entrer dans la prière avec voilà avec notre âme, mais c'est une activité de l'esprit. Vouloir faire les choses par nous-mêmes, voilà, prier seulement avec notre intelligence. Mais voilà, si on se laisse conduire par l'esprit dans une prière qui est conduite par l'esprit, voilà à quoi. On aboutit. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Ces miracles, ces prodiges, pour sa gloire, pour que de plus en plus de personnes soient touchées par lui et puissent lui donner sa vie, leur vie. Amen. Voilà, je ne sais pas comment ça descend en vous. J'espère que ça vient toucher. Des zones de votre cœur, voilà ça. Mais bon, ça, c'est pas mon job, c'est le travail du Saint-Esprit. Alors qu'on puisse en tout cas être sensible à ce que Dieu fait, qu'on puisse avoir les yeux, les oreilles ouvertes, parce que vraiment, il y a des choses qui sont en train de se passer, et le Saint-Esprit ne demande qu'à que ça prenne de plus en plus d'ampleur. Amen.